Amérique, un commerce équitable, une émission de Régis Debray. Aujourd'hui, le jazz avec Francis Marmande. Je ne vous apprendrai rien, chers auditeurs, en vous rappelant que le saxophone doit son existence et son nom à Adolphe Sax. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il est belge, et qu'il est né en 1814 et mort en 1894, et c'est lui qui a inventé, sur les bords de la Meuse, à Dinan, l'instrument, a-t-on dit, le plus proche de la voix humaine. Il a révolutionné en Europe non seulement les fanfares de musique militaire, mais la musique classique, et Rossini, Berlioz et Bizet en ont tiré le plus grand profit. La grosse pipe de métal, comme l'appelait Cocteau, est arrivée par la suite à la Nouvelle-Orléans, la patrie des world songs, des spirituals et des blues, puis elle est remontée à Chicago et New York, et, comme chacun sait, Charlie Parker, Coltrane et Sonny Rollins lui ont donné ses lettres de noblesse à côté de la trompette et de la clarinette. Et le saxo est revenu en Europe après la Première Guerre mondiale, où il a, notamment via le phonographe, sauvé Jean-Paul Sartre du plus noir désespoir. Ce sont, je cite, « les sons blancs et acidulés d'un saxophone », fin de citation, à la fin de la nausée, qui lave Roquentin, son double, du péché d'exister, lorsqu'il écoute une mélodie impérissable, « Some of these days, you'll miss me, honey ». Le drôle, c'est que Sartre a interverti les attributions de ce morceau. Le ragtime, on le sait aujourd'hui, n'a pas pour auteur un compositeur juif comme Gershwin, mais un noir, Shelton Brooks. Et la chanteuse n'était pas du tout noire, elle était une blanche d'origine juive qui se noircissait le visage, Sophie Tucker. Mais peu importe, ce sont les longues plaintes sèches du jazz et le son net et précis du saxophone, je cite Sartre encore, qui révèle à notre professeur du Havre que la contingence idiote des choses a un remède, la beauté artistique et sa nécessité interne. Si Sartre avait d'abord intitulé son roman « Mélancolia », avant que Gaston Gallimard ne change le titre, ça c'est une hypothèse que je fais, n'est-ce pas à cause de l'impérieuse mélancolie qui sort des saxophones, la formule est de Paul Morand. Ce point de rencontre entre jazz et littérature est certes une anecdote, mais elle peut servir d'introduction à ce qui va nous occuper aujourd'hui, et qui est la façon dont le jazz, une musique existentialiste s'il en est de par sa liberté d'improvisation, la façon dont le jazz a été accueilli dans l'Hexagone, et ce qu'il a transformé dans notre culture, et en quoi il s'est peut-être lui-même transformé du fait de cet accueil. Et qui pourrait mieux nous éclairer sur ces échanges on ne peut plus nutritifs entre nos deux continents qu'un grand lettré contrebassiste, spécialiste de Michel Léris, l'ami de Sartre, vous voyez, le monde est petit, et aussi, pas seulement professeur, mais chroniqueur de jazz du monde, je veux dire Francis Marmande. Alors, mon cher Francis Marmande, puisque j'ai évoqué Léris, quel était le rapport de Michel Léris avec le jazz et peut-être plus largement de cette rythmique avec les écrivains français, je pense à Céline, Cocteau, Reda peut-être. En tout cas, commençons par Léris.
Commençons par Léris parce que vous avez bien raison. Léris est au commencement, il est à un point de fracture dont il a parfaitement conscience, ce qui est déjà une nouveauté le concernant. Il n'est pas le seul. Il voit un spectacle au Théâtre Comartin, les Seven Spades, en 1918. Il identifie ce qui est, on y reviendra, le jazz, entre guillemets, et ce qui n'en est pas. Il est très sensible au corps, aux danseurs, aux boxeurs. C'est un autre aspect de la question, mais il en parle à propos de cet orchestre. Il est très sensible à la beauté noire, métisse, féminine, que portent ces corps et
tout ça avant qu'ils connaissent l'Afrique, si j'ai bien compris.
Et alors voilà, la grande force de cette révélation, c'est que on pourrait très logiquement penser que c'est la déduction de ses études d'ethnologue et d'anthropologue, pas du tout. C'est, dit-il, ce qui le conduira en Afrique, l'amour du jazz, et via l'Afrique à sa recherche d'ethnologue. c'est dans ce sens que les choses se sont faites pour lui. Mais j'ajouterais que, outre qu'il a une mémoire précise des spectacles qu'il a vus, de ce qu'il a formé imaginairement, et dont il parle dans l'âge d'homme, donc au milieu des années 30, outre cela, il sait raccorder sa passion du jazz naissant, dans les années 18, 20, jusqu'à la fin des années 20, il s'est raccordé cette passion à ce qu'il a vu enfant, qui n'avait rien à voir, et tout aussi, avec le jazz. Par exemple, à l'âge de 5 ans, un spectacle qui s'appelait Les Joyeux Nègres, Toulouse-Lautrec a peint l'un des deux, et c'était un tandem, le petit et le grand, de clowns, foutis des chocolats. Moi, je suis très très sensible à cette perception-là, c'est-à-dire aimer ce qui va advenir avant de le connaître. J'ai dit souvent, ça paraît une espèce de paradoxe dandy, mais c'est aussi le triste fond de ma réalité. J'ai aimé le jazz avant de le connaître. La télévision, la radio et les disques étaient en nombre très très limité à diffuser cette musique, et j'étais passionné, les orchestres de cirque, par exemple, ou l'orchestre de la plage, me disaient, ou les chansons de variété des débuts des années 50, me disaient qu'il y avait une forme, probablement, et des praticiens de cette forme, des acteurs et des musiciens, qui étaient encore plus considérable, puisque déjà ce que je voyais comme épiphanie était tellement agréable, mais tout à fait insuffisant.
On a même parlé de l'influence du chemin de fer sur le jazz, avec le sifflement des vieilles locomotives à vapeur.
Oui, enfin les vieilles ou les récentes.
Ou les récentes, enfin pour le rythme, et certains disent même pour les Blue Notes.
Mais surtout ça, pour le rythme, oui, parce ouais. que le mais enfin Honegger aussi à ce moment-là, oui. Mais le rythme des boogies, puisque il y a une forme de danse qui s'appelle boogie woogie, ou forme pianistique aussi, avait quelque chose d'une scansion, d'une répétition, presque syncope qui pouvait influer sur la perception sur le dessin du rythme qui sera produit par la suite.
Alors on pense aussi à un autre écrivain, Céline, à peu près de la même époque. Vous voyez une influence de la rythmique sur le style Céline ?
Non, je ne vois jamais, sauf dans les mauvais textes et les mauvais poètes, d'influence directe du jazz sur une écriture, sur une temporalité, sur une syncope. Céline, oui, je le vois dans ce qu'il dit lui, mais je le vois aussi dans son rapport sensible, pas seulement dans le chapitre américain du voyage, mais la perception qu'il a de la ville, de l'espace, de l'extension, de la verticalité, une autre façon de bouger dans la ville.
Oui, avec son voyage à New York, célèbre, bien sûr, la ville debout. Mais alors, d'où vient ce mot jazz ? Et comment faire pour ne pas l'employer à tort et à travers ?
Comment faire sans angoisse ? Parce qu'on ne l'emploie qu'à tort et à travers. Donc, c'est l'objet de disputes scolastiques depuis le début, mais c'est passionnant et ça n'a aucun intérêt. Je ne sais pas comment vous dire ça.
Alors je ravale ma question. Ou peut-on encore lui donner un sens
On peut lui donner une fraîcheur, oui. Le mot est récusé par tous les grands musiciens que on aura la possibilité de citer, depuis Armstrong jusqu'à Archie Shepp. On pourra en parler à propos de Léris, si je revenais à Léris. Mais le mot est récusé parce que les musiciens afro-américains avaient le sentiment très précis que ce mot avait été, non pas inventé, mais en tout cas popularisé par les studios de cinéma d'une part, et par l'industrie de la musique blanche. Alors là, on entre dans des querelles très précises. L'origine du mot, elle est rigolote, si on veut. C'est-à-dire qu'il y a une thèse qui dit que dans les bouges de la Nouvelle-Orléans, tout jazz, c'était pratiquer l'amour, mais avec le mot le plus vulgaire possible qu'on peut, enfin, je sais pas quoi, même pas baiser, parce que aujourd'hui, ça s'est presque répandu. Ensuite, il y avait cette possibilité qu'en Louisiane, jazz viennent ou soient raccordées à jaser l'art de la conversation, ce qui m'a permis simplement de faire une conférence un jour à la Nouvelle-Orléans en disant pourquoi la France a inventé le jazz, mais voilà,
ça parce que c'est le pays de la conversation.
Parce que c'est le pays de la conversation. Mais sont que des usages. Il y a un musicien de la Nouvelle-Orléans que j'ai rencontré, Albert Nicolas, un clarinettiste délicieux, disait que dans la campagne était nommé jazz par apocope du mot jackass, qui signifiait le bourricot, comme un mot injurieux pour désigner une pratique musicale qui n'était pas très noble. Non. Ce qui m'intéresse, c'est que le sexe, la langue et la bêtise sont là-dedans.
Voilà. D'accord.
Alors jazz, moi je serais prêt à l'abandonner, j'ai dit, je l'emploie avec des guillemets, je fais le malin avec ça, mais d'un autre côté, je trouve que c'est une espèce de mot passe-partout qui est très, très joli et très, très pratique. Mais ce qu'il désigne, en revanche, a été identifié par un exercice critique qui ressemble à tous les exercices critiques, c'est-à-dire délimiter ce qui en est et ce qui n'en est pas.
Alors, on y reviendra, mais commençons d'abord par l'histoire, par la courte histoire du jazz aux États-Unis avant son arrivée en France ou en Europe. C'est une succession, je crois, de générations. Est-ce que il y a des conflits de générations? Comment ça se passe, le devenir interne du jazz?
Et ça, c'est passionnant parce que le jazz prenant une de ses naissances à la Nouvelle-Orléans dans les 10 premières années du XXe siècle, ça, c'est une vision un tout petit peu courte hein, de son éclosion. Dans toutes les grandes villes, Saint Louis, New York, Chicago, Detroit, on assiste au même mouvement. Il y a une musique qui émerge, de confluents de plusieurs musiques qui donnent lieu à cette musique qui n'a pas eu d'existence avant elle. Ça, c'est intéressant. De l'autre côté, le fait qu'elle démarre un peu partout simultanément n'empêche pas une règle de fond, c'est que, sans doute partout, mais à la Nouvelle-Orléans, il y avait Louis Armstrong, Sidney Bechet, Bessie Smith, Jelly Roll Morton et quelques autres. Et là, ça fait la différence. C'est-à-dire que la Nouvelle-Orléans, il y a une constellation de, je ne sais pas comment les appeler, mais des génies fondateurs. Ailleurs, il y a des musiciens exceptionnels. Et lorsque les musiciens partent de la Nouvelle-Orléans, quand le quartier de Storyville est fermé pour mauvaises mœurs, ils vont essaimer à Chicago, à New York, etc. Et puis alors là, sortent d'autres musiciens.
Alors est-ce que les enfants des génies fondateurs tuent le père ou les pères?
Eh bien, comme le père n'arrête pas de se reproduire en père et que tout cela se passe dans un temps extrêmement court, la force centrifuge du jazz fait que effectivement il y a une sorte de renouvellement constant de génération par contestation de la précédente. Contestation dans l'amour. Enfin, si je veux rester, on pourrait prêter cette pensée à Charlie Parker dans les années 40, ma façon de rester fidèle à Louis Armstrong et Duke Ellington, c'est de trouver une voie d'échapper libre. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que cette contestation de la contestation se produit, mais entre des êtres et des corps. D'abord, certains circulant de génération en génération, Coleman Hawkins par exemple, et d'autres s'affirmant contre celle qui précède, mais sans celui qui précède, mais sans le nier. Ça, c'est très curieux. Chacun ajoutant une force contestataire. Alors, il y a un poète français qui aurait pu bien résumer cela si on n'en avait pas fait un poète de citation d'aphorisme, c'est René Char, c'est « si tu détruis, que ce soit avec des outils nuptiaux ». Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire
donc Armstrong n'a jamais été fondamentalement contesté, renversé comme archaïque
Non, mais parce que c'est une forme indépassable.
Thank you.
zé, bazo zé zé, babarada do zé do zé, babado do 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 do, oh babado zé do zé, mamado do 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 zé, babado zé do 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 zé, babado do zé 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 do 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 zé zé, babado do zé zé zé.
Pas ça, pourquoi ?
Ben là, on vient de l'entendre de façon manifeste, c'est que ce Western Blues, qui sert de référence d'ailleurs, je vous le dis, à tous les amateurs de jazz et à tous les musiciens, tranche avec même la pratique personnelle d'Armstrong, qui était en quintet beaucoup plus solidaire, sautillante et magnifique. Et ce 28 juin 1926, pour quelle raison, je n'en sais rien, il est en studio et il attaque ce thème. Au lieu de l'attaquer comme vous et moi, on l'aurait attaqué au mieux, c'est-à-dire sur le temps et le contre-temps, en marquant le temps faible avec les blue notes, avec tout ce qu'il faut, ce qu'il fait après, il l'attaque par une espèce d'introduction, d'anacrouse, comme on dit en technique musicale.
Expliquez-moi ce mot, anacrouse.
L'anacrouse, mais ça existe aussi dans la musique classique, ouais. Sont des mesures qui sont en dehors de la mesure officielle du morceau, tant qu'il n'a pas commencé exactement. Alors c'est à la fois, c'est une levée, c'est quelque chose qui vient d'ailleurs, qui n'a pas de rapport logique avec la façon dont le morceau va se dérouler, et dont la forme que lui donne Armstrong a quelque chose de solaire, d'éclatant, d'envolé, de magnifique, qui en fait l'exception parce que il a là, en quelques mesures imaginaires, avec des franchissements, des transgressions tout à fait extraordinaires, il a une façon de dire, bien voilà, l'improvisation désormais, ce sera ça. Jusque-là, on était vraiment performant, surtout dans la musique que lui faisait, et dans celle que faisaient ses prédécesseurs. Parce qu'avant le jazz, il y a toujours eu des musiciens qui ont commencé, qui n'ont pas eu de discographie, qui n'ont pas eu de notoriété, qui ont fini à l'asile de fous. Mais ça, c'est comme Buddy Bolden. Mais les jalons ont pu être posés, les fondamentaux ont pu être établis. Tout le monde est d'accord sur la grammaire, la syntaxe et la manière de développer, de créer une polyphonie collective, par exemple, ce qui n'est pas rien, est tout à fait comparable à Monteverdi, beaucoup plus qu'à d'autres formes de musique d'orchestre. Et puis, brutalement, il y a cette espèce d'échappée lumineuse qui n'a jamais été produite avant lui et qui ne le sera pas de cette façon-là, mais qui donnera la piste à tout le monde.
Et alors, avant le jazz, me semble-t-il, il y a eu la musique sacrée, il y a eu le spiritual, il y a eu le gospel, il y a même eu le psaume protestant ou évangélique. Et on peut être frappé de cette combinaison, disons, entre le prêcheur et le jazzman qu'on retrouve par exemple chez un Ray Charles. Est-ce que ce fond religieux est encore présent ou le jazz est-il devenu une musique totalement laïcisée ? Ce qui serait peut-être le cas en Europe, où nous n'avons pas le même background, si j'ose dire.
De fait, parce que le background états-unien est tout à fait singulier. Le jazz ne s'est pas développé. Il y a eu aussi transport d'esclaves au Canada, ne s'est pas développé en Amérique du Sud, ne s'est pas développé au Caraïbes, dans la zone Caraïbes de la même façon, mais aux États-Unis, la langue et la religion et les mères ont joué un rôle décisif. La plaisanterie sur laquelle les musiciens étaient illettrés en matière musicale et peu formés en matière instrumentale est une bêtise. Il n'y a pas eu de peuple qui ait trouvé sa solidarité plus grande dans l'apprentissage de la musique, que ce soit...
Et qui se fait au culte, généralement, en chantant les psaumes.
Qui se fait à l'église, qui se fait à l'école, qui se fait à la caserne, qui se fait en prison, qui se fait avant, c'était dans les champs de coton, au travail. Et cet apprentissage, c'est pourquoi je souligne le rôle des mères, parce qu'elles sont là à l'origine. Je réponds aussi au passage à cette bêtise qu'il n'y a pas de femmes dans le jazz, ou moins que... Mais là c'est, il faut faire un effort d'anthropologie légère.
Il n'y a pas de femmes, mais il y a des mamans, dites-vous.
Il n'y a pas de femmes, mais il y a des mamans partout. Enfin, c'est, Et quant au rapport au sacré, il y a aussi quelque chose de très, très renversant dans le fait que des musiciens ont choisi cette musique-là pour quitter la famille, pour quitter l'église, pour quitter le noyau constitutif de leur civilisation de proscrits, enfin, vivant en vase clos sous l'apartheid. Mais le club de jazz, la musique la nuit, les pratiques qui vont avec, l'alcool, etc., c'est aussi une façon de dire bon, la vie à la maison, ça suffit. Et si l'on veut retrouver une forme qui ne soit pas celle de l'éducation, de l'oppression, etc., de la transe, par exemple, ou du sacré, c'est dans le jazz qu'on le retrouvera. Quant à des musiciens comme Ray Charles, Nina Simone et toute cette génération, ils sont allés plus loin parce qu'ils ont repris les formes pures des réponses, du sacré, des chants d'église, des gospel songs, etc., mais au service de textes et d'endiablement érotisés. Alors là, c'est d'ailleurs les parents se sont gendarmés souvent.
Ah oui. La vie à la maison, ça suffit. Donc, on va à la ville, on fait un jazz band, dirions-nous, aujourd'hui. Mais la vie à part, elle continue. Il m'arrive de penser, la ségrégation a eu son rôle tout de même dans la naissance du jazz. C'est tout de même une musique noire et c'est peut-être une musique anti-blanche. Je pense au mot de Gide, n'est-ce pas ? Il n'y a pas d'art sans contrainte. Mais c'est vrai qu'il y a un aspect revendicatif. Il y a un aspect, je dirais, de révolte et donc d'indépendance assumée dans le jazz. Au début, il n'y a pas de blanc, me semble-t-il.
Oui, enfin, c'est à voir. Il y a à Chicago, Bix by der Brecke, etc. Mais vous avez raison. Sur le fond, vous avez raison. C'est une musique de rébellion instants. C'est-à-dire celle qui concerne les façons de vivre et les manières de mesurer ses excès, celle qui concerne le rapport au pasteur et à la famille. Et voilà. Donc, bien évidemment, quand divers évangélistes extrêmement précautionneux de l'éducation de leurs enfants se retrouvent avec un petit gamin insupportable, drôlissime, qui s'appelle Fats Waller. Le père, absolument consterné, prêche dans les rues de New York et dans les rues de Manhattan. Et le fils l'accompagne, il a 7-8 ans, avec un orga de déplacement, comme ça, d'un guide chant, mettons. Et alors qu'il accompagne les psaumes et les hymnes et les choses les plus graves, de temps en temps, il balance une fusée qui vient du ragtime et du stride. Le public adore, enfin, la congrégation de rue adore ça, et le père se lamente en lui faisant jurer qu'il n'en jouera plus jamais, et il devient Fats Waller, c'est-à-dire non seulement un des créateurs les plus considérables de musique de gaieté, de communication vive, mais aussi avec Andy Razaf, un tandem poésie. Musique qui jouera un rôle considérable dans la culture américaine.
Alors, Francis Mamande, vous savez que Je l'ai dit, je ne vois pas de civilisation possible sans un empire derrière. Et quand je constate ce qu'il est arrivé à la musique brésilienne et même aux Noirs du Brésil qui ont également résisté à l'assimilation blanche, ont également préservé leur mémoire par cet alliage de religion et de chant ou de danse, mais on est bien forcé de constater que les candomblés et les macumba n'ont pas fait retour en Europe. Peut-être un peu plus tard avec la bossa nova et la salsa, mais ça c'est très contemporain. Enfin, le fait est que arrive en Europe au début du XXe siècle le charleston, le foxtrot, puis le slow. Et quand je dis au début du XXe siècle, c'est au début, ou plutôt à la fin de la Première Guerre mondiale. Et je me demande si la raison n'est pas que le Brésil n'était pas une grande puissance dotée d'un corps expéditionnaire, alors que le jazz band arrive en France avec les régiments de l'infanterie américaine en 1918. Ils font d'ailleurs le premier concert à Nantes, je crois. Et l'un de ces soldats noirs, j'imagine, le tambour major Noble Sissel, ai-je lu quelque part, dit « J'eus alors, 1918, à Nantes, la certitude que la musique américaine deviendrait un jour la musique du monde entier ». La musique noire brésilienne n'est pas devenue la musique du monde entier. Est-ce que le discriminant n'est pas d'un côté empire, de l'autre grande république sans armée ?
Oui, je vois bien.
Est-ce que je force un peu le trait ou je tire la couverture à moi en
disant
ça ? Vous tirez
la couverture à vous, mais vous n'avez pas tort. Je vais rajeunir un peu votre vos concepts.
Votre toute neuve érudition.
Le jazz band, c'est effectivement un terme qui s'est employé assez longtemps, enfin jusqu'à l'identification dans les années 30 de ce qu'est le jazz comme forme esthétique. Le jazz band, c'était comme orchestre.
Oui.
Et effectivement, encore même dans les RIS où on trouve dans tel café-théâtre ou tel restaurant, il y avait un jazz. Qui jouait ceci, cela. Bon, ça, c'est une des petites choses sémantiques.
On utilise le mot jusque dans les années 30, non ?
Oui, pas plus.
Je pense que Jean Cocteau l'utilise.
Oui. Cocteau a une perception très, très vive de ce qu'il voit, de ce qu'il sait décrire. Il décrit un des premiers orchestres qu'il voit en disant « On avait l'impression d'une catastrophe apprivoisée ». Je trouve que c'est très, très fort et plus fort que beaucoup de descriptions du début qui sont désemparées par la sauvagerie ininterprétable de ce qui est vu. L'autre point, c'était dans votre présentation générale tout à l'heure, on ne dit plus saxo depuis très longtemps, hein, très très longtemps. Mais c'est intéressant aussi.
Quel mot utilise-t-on ? On ne dit pas saxophone, quatre syllabes, c'est trop.
Non, alto sax ou sax, si vous voulez le qualifier, ténor sax, ténor, alto. Alors ça fait évidemment équivoque. Non, mais alors sax, ça fait. Ça va vite, c'est comme ça. Entre musiciens, c'est comme ça. Oui.
Sax, c'est monosyllabique. Il y a une troncation, il faut terminer sur une consonne, ce qui permet de rythmer. Voilà. On dit sax, comme on dit assos, pour dire association.
C'est possible que ça se soit raccourci de cette façon-là.
Oui.
Il y a une dimension dont on n'a pas parlé pour l'instant, mais qui rejoint ce que vous m'invitez à penser. L'histoire de l'empire, de la diffusion de la force d'un empire et de sa capacité de séduire.
Oui, de séduire, de se faire désirer, d'imprimer un style et de bouleverser les mœurs, quoi.
Parce que même dans votre livre, on le perçoit bien, ça, c'est que bien sûr, on s'américanise, enfin, jusqu'à un certain point pour des sortes de vieux résistants comme pourrait être, je veux dire, du point de vue alimentaire ou du point de vue vestimentaire, etc. Mais de notre côté, si il y a cette diffusion généralisée par les séries, par ça correspond tout de même à un désir de l'autre d'être capté dans ce mouvement d'envahissement. Et ça, c'est un des mouvements des empires aussi. C'est-à-dire ça ne peut pas se faire sans le consentement.
Bien entendu.
Du
un
dominé.
Empire, un véritable empire n'est pas dominateur. Il est hégémonique. Il n'opprime pas. Il se fait désirer. Et bien sûr. Et là, il y a comme une harmonie, je dirais, entre le jazz et je dirais la nouvelle forme de la culture. Si on peut dire les grosso modo, excusez-moi le survol, le Moyen-Âge, c'est la culture de l'âme. La modernité, c'est la culture de l'esprit. Nous sommes dans la culture du corps, me semble-t-il. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'esprit dans le corps. On le voit bien, le jazz a beaucoup d'esprit. Mais le jazz, ça se rythme, ça se danse. Et d'ailleurs, je crois, vous allez me dire si je me trompe, qu'il y a un lien avec le sport et que le basketball ou le volleyball serait arrivé à peu près également au début du XXe siècle avec l'armée américaine et le besoin, disons, d'exercice physique et l'obsession de la santé du corps comme expression de la santé morale, etc., etc. Mais vous êtes d'accord que le lien avec le corps, du rythme et du corps est quelque chose d'essentiel?
Ah, c'est fondamental. Mais c'est fondamental dans la mesure où, par exemple, Chaplin donne l'impression de nous livrer clé en main de nouvelles dimensions de l'espace. Petit bonhomme au milieu de la rue, on voit bien qu'il ne sait pas comment faire, comment se placer à côté d'un corps de femme plus grand que lui, généralement. Donc,
et le flic est deux fois plus gros.
Et le flic et sa corpulence, et il cherche sa place. Bien. Mais les Afro-Américains arrivant avec les tap dancers, les danseurs à claquettes, avec les danseurs tout court, avec la gestuelle de l'orchestre. C'est évidemment toute une espèce de forme, de démarche, d'allure, d'aisance, de décontraction dans l'air qui est inédite. Et la démarche dans les rues, le corps souple, oui, qui est à la fois le corps du sportif, du basketteur, du boxeur et le corps du musicien, sont des corps qui impriment une autre image, évidemment, que celle des corps des hommes politiques de la Troisième République en France, par exemple.
Et même de la Cinquième, quand on voit Obama marcher à côté de Hollande.
Il y a une différence.
Il y a une différence, c'est-à-dire que les Américains savent bouger. Et puis, ils ont un rapport à l'espace, évidemment, je dirais, ancestral. Dès la fondation des États-Unis, il y a de l'espace, beaucoup d'espace, donc il faut le maîtriser, il faut le domestiquer, etc. Donc, ce sont les maîtres de l'espace, et par là même aussi, les maîtres du mouvement, donc les maîtres du rythme. Et nous vivons, grâce à eux, la civilisation du rythme. Personne ne s'en plaint. Enfin, trop de rythme, à un moment donné, ça peut tuer la nuance, et voire même la logique.
Mais il faudrait aussi s'entendre sur ce que vous prêtez aux vertus et aux menaces du rythme. Par exemple, l'évolution des musiques populaires aux États-Unis d'Amérique aujourd'hui ne vont pas dans le sens du jazz, toutes. Il y a dans des formes de hip-hop ou de rap des prolongations, des continuités qui passent d'ailleurs par la voix, j'y reviens, comme le terrain de la voix c'était le blues, mais la diction américaine, la scansion de la langue américaine, qui a peu de rapport avec Oxford, mais qui a peu de rapport aussi avec CNN. Oui. Les musiciens et chanteurs et chanteuses afro-américains sont la grandeur de la profération de cette langue.
Oui, nous sommes d'accord, et le rythme, c'est aussi c'est la batterie et c'est aussi la contrebasse. Parlant de contrebasse, mon cher Francis Marmande, chacun sait que vous jouez de la musique et notamment de la contrebasse.
Chacun, non, mais enfin.
Et vous ne vous dites pas musicien, vous ne vous considérez pas comme un jazzman. Est-ce que je me trompe et pourquoi ?
Mais j'ai pas à le dire ou ne pas le dire, je ne le suis pas. Je me fais une idée extrêmement métaphysique de la présence du musicien sur Terre, c'est-à-dire que le musicien, c'est celui qui n'est que musicien et qui est engagé corps et âme, body and soul. Mais c'est vrai de la musique classique, c'est vrai du flamenco, c'est vrai de toutes sortes de musiques, dans sa pratique musicale. Non, on n'est pas musicien de temps en temps, dimanche soir dans son quartier, et ça suppose une pratique musicale qui est constante, qui a atteint les sommets d'excellence que l'on sait. Mais c'est pas ça l'intérêt du jazz. C'est ni la virtuosité, ni la qualité instrumentale, ni sauf que le jazz, la musique afro-américaine n'a pas d'existence sans ces valeurs-là.
Bon, on est musicien à vie, on ne l'est pas de temps en temps, mais il arrive qu'on joue parfois de la musique, si je ne me trompe.
Thank you. France-États-Unis, un commerce équitable. Régis Debray, Francis Marmande.
Vous vous reconnaissez, j'imagine, dans ce morceau.
Oui, j'ai eu cette espèce d'intrépidité de passer dans notre émission à laquelle vous avez la gentillesse de m'inviter. Mais un morceau bref où je joue en 1989 avec deux partenaires. C'était la fin d'une séance d'enregistrement qui avait duré 4 jours et il restait de la bande. C'est une notion qui a disparu, cela. C'est-à-dire, la bande, ça coûte cher, le temps, ça coûte cher, les conditions d'enregistrement coûtent cher, c'est comme au cinéma. Le digital, ça a absorbé, ça a bu toutes ces notions-là.
Et donc?
Donc, il restait de la bande, et l'ingénieur du son nous dit, nous étions trois, que voulez-vous en faire? Et le responsable du disque, Jacques Bérocal, dit on va enregistrer le temps qui reste. Donc nous n'avons pas de thème, nous n'avons pas d'idées préconçues, nous n'avons pas de, on dit pas au début 1, 2, 3, etc.
Donc un arrangement en tête.
Zéro. Nous ne sommes même pas, nous sommes dans un studio et pour des raisons de son, nous ne sommes pas proches les uns des autres. Voilà. Et on saute comme trois ensemble, mais ça fait des années et 3 jours qu'on joue ensemble, donc il y a quelque chose. Mmh. Alors ça, pour le coup, ça c'est une pratique très très familière aux musiciens. Mmh. Et on saute dans l'inconnu, comme on saute dans une rivière, et on est aux aguets de ce que fait l'autre pour rebondir vers le troisième.
Donc le jazz a existé bien avant l'existentialisme, mais c'est pas pour rien que l'existentialisme, je parlais de Sartre en commençant, s'est trouvé des atomes crochus avec le jazz, en tant que le jazz n'exécute pas une partition, mais improvise, s'aventure, s'invente, comme vous l'avez fait ce soir-là.
Il peut reproduire l'accident de la vie, oui. Ce qui arrive. J'ajouterai là que le batteur, qui est dans un mouvement extraordinairement frémissant et bondissant, s'appelait Jacques Tolot, il est mort il y a 2 ans. Et alors ça, voilà, ça c'est ma vanité de non-musicien, mais aussi une vanité dont j'essaie de tirer quelques leçons. Jacques Tolot a eu une carrière tumultueuse, mais en même temps bouleversante, parce qu'il avait des secrets que d'autres n'ont pas. Ça, c'est chaque musicien de jazz que j'ai rencontré, et à force, tous les vivants, je les ai rencontrés ou presque, ont des biographies de dresseurs d'ours. C'est hallucinant. Et Jacques Tolot avait joué avec Eric Dolphy, qui est une espèce de... Voilà. Lequel avait joué avec Coltrane, lequel avait joué avec Dolphy, avec Mingus, de proche en proche avec Duke Ellington, voilà. Avec Armstrong. C'est-à-dire que c'est une passe. C'est une passe comme la psychanalyse et comme la philosophie.
Il y a des traits d'union. Il y a du symbiotique, il y a de l'apprentissage, mais il y a aussi, semble-t-il, ou il y a donc des jazzmen européens. Je pense à Stéphane Grappelli, à Claude Luther, à Django Reinhardt, même à Boris Vian, le trompettiste. Excusez-moi, je cite les noms de ma jeunesse. Hein. Et puis, bien Django Reinhardt, bon, un homme de 2 civilisations, tzigane et européenne. Est-ce qu'on peut parler d'un jazz euro-américain, et est-ce que les jazzmen européens peuvent avoir une place en Amérique?
C'est une vraie question, parce que ceux qui ont eu une place en Amérique ont été assimilés avec leur consentement. Ils venaient d'ici ou de là, d'Europe centrale ou de...
Pas jusqu'au point de changer de nom, j'imagine, comme...
Non, mais enfin, il fallait... qu'ils acceptent d'être américains dans leur pratique. Il fallait aussi qu'ils aient la carte qui leur permettait de jouer dans ce pays.
À qui pensez-vous?
Georges Mraz, contrebassiste tchèque de Je ne cherche pas des noms trop importants. Je pense aussi à Michel Legrand lors de ses jours qu'il a pu faire aux États-Unis, mais il ne s'y est jamais installé. Je pense à un trompettiste italien, Enrico Rava, mais les années s'y prêtaient, qui a partagé sa vie entre Rome et Manhattan et qui jouait avec tout le monde. Je pense aussi à, il n'y a pas que l'Europe, mais Paul Blay qui venait du Canada et qui a... Voilà. En revanche, Martial Solal, par exemple, est attendu ce soir à Manhattan par tous les amateurs de jazz. Je ne vais pas dire par tous les États-Unis, parce que les États-Unis se fichent du jazz à un point que vous n'imaginez même pas, au sens pays global. En revanche, oui, Martial Solal est attendu. Et dans les années, au milieu des années 50, on l'a supplié de s'installer aux États-Unis. Il est passé au festival de Newport. Il a été programmé au Village Vanguard le 11 septembre 2001, ce qui était quand même une idée tout à fait surprenante. Et il a fait une semaine au Village Vanguard, qui est un des lieux de référence. Et c'était archi bourré tous les soirs, malgré les tours, malgré les circonstances.
Je vais vous poser la même question, mais de façon plus brutale. Le jazz est-il un genre musical américain joué par des Européens, ou le genre musical peut-il n'avoir pas de marque d'origine?
Alors, au début, c'est cela, et très vite, c'est quand même une langue universelle. Là, pour le coup, le batteur avait raison, et c'est une langue pratiquée dans les pays de toute la planète, oui. Une langue, une syntaxe, une grammaire, un art de la digression ou de l'improvisation ou de la surprise. Et tout le monde sait ça, y compris dans les degrés les plus limités. Par exemple, le quintet du Hot Club de France, Stéphane Grappelli, Django Reinhardt. Il y a des festivals même qui ne sont consacrés qu'à cela. Vous avez des quintets de la même nature partout.
Donc quand vous rencontrez un contrebassiste américain, vous êtes de la même patrie, vous pouvez vous comprendre, communiquer?
Alors, ça c'est une chose autre. Joëlle Léandre, qui est une femme immense contrebassiste classique, musique contemporaine et improvisation, m'a dit récemment, oui mais les contrebassistes c'est à part, parce qu'il n'y a pas de rivalité. Moi, tous les contrebassistes que j'ai rencontrés, si on parle de cette expérience, ne m'ont jamais considéré comme inférieur. Ce serait pas du tout pareil si c'était le saxophone, dont vous faites l'origine de cette musique, ou le...
Non, de l'existentialisme, disons-le.
D'accord, alors ça me va mieux. Ou la batterie, voilà. La batterie, je pense que les très grands batteurs américains sont prêts à considérer que, à part quelques phénomènes comme Daniel Humer, il n'y a pas d'autres batteurs que états-uniens. Les saxophonistes, c'est une guerre de phallus et d'égo tout à fait remarquable, y compris. Mais alors, en revanche, vous diriez à des musiciens qui ont 25, 30 ans, 40 aujourd'hui, c'est une musique américaine jouée par des Européens, ils seraient mortellement atteints dans leur pratique, leur être et leur espoir. Les festivals de jazz de l'été leur donnent à penser que vous n'avez peut-être pas tort, vous voyez, donc c'est compliqué, il y a beaucoup de souffrance là-dessous. Thank you.
maintenant, une dernière question qui vient à l'esprit, en tout cas pour un profane comme moi, et sans doute parmi d'autres éditeurs, il y a d'autres profanes chez les auditeurs, mais par où passe la frontière entre le jazz et la variété? Par où passe la frontière, disons, entre le rock ou la pop musique, les Beatles et les Rolling Stones, et avec ce dont on parle depuis le début de cette émission, c'est-à-dire Armstrong, Lester Young, Archie Depp ou autres?
La frontière est pas du tout progressive et glissante. Enfin, elle est marquée. D'une part, il a fallu que la critique, souvent d'origine européenne, c'est très curieux, délimite ce qui est du jazz, je vous le disais, et ce qui n'allait pas. Ça a l'air très très bête, mais c'est surtout très kantien, c'est-à-dire critique du jugement, vous pouvez pas déclarer tout et n'importe quoi relevant de la bannière du jazz. L'autre chose, c'est que...
Et votre définition, à vous, est-ce que vous avez, vous dites ça c'est du jazz, ça n'est pas, ou la question n'a pas de sens?
Vous savez, ça c'est comme le swing, qu'on a essayé de critiquer, de façon idéologique ou autre, comme ça. Je peux dire que ma définition, elle est très simplette, c'est que, je sais pas exactement, mettons, ce qu'est le jazz, mais je sais quand il y en a pas. Le swing, je sais pas tout à fait ce que c'est, mais je sais quand il n'y en a pas. Dans la musique européenne, qui a développé des formes d'improvisation collective formidables, il y a toute une part de cette musique, l'essentiel, qui ne peut être jouée que par des musiciens de jazz, parce que il y a un autre ressort. Voilà. Mais le glissement, il est d'une autre nature, c'est-à-dire que dans les années post-deuxième guerre, l'apartheid étant l'apartheid aux États-Unis, la forme populaire de la musique afro-américaine, de la musique noire, n'était pas du tout le jazz. Le jazz s'était même séparé pour ne pas être récupéré comme il l'avait été par les grands orchestres, par le cinéma. Le premier film parlant, soi-disant, le chanteur de jazz, c'est un film blanc avec un minstrel, etc. Le roi du jazz, 2 ans après, c'est un film avec des musiciens blancs, c'est une honte, c'est un trompettiste, sa carrière, etc. Alors que Louis Armstrong, Roy Eldridge, Cootie Williams sont à leur sommet. Bref, la musique afro-américaine populaire, c'est le rhythm and blues. Ce qui nous ramènerait au blues, dont on n'a pas du tout ou pas assez parlé, qui est le fondement même de, voilà, il y a du blues sans jazz, mais il n'y a pas de jazz sans blues.
Un mot pour définir, c'est un peu cartésien, délimité, exclure, pour définir le blues.
Ah, le blues, c'est définissable d'un point de vue musicologique. Ce sont des formes très précises qui ressemblent aux formes fixes de la poétique européenne au XVIe siècle. Les 3 accords distribués en 4, plus 2, plus 2, plus 1, etc. C'est comme la forme sonnée. Pouvait produire je ne sais combien de... Voilà. C'est cette forme que vous n'entendez pas sous les chansons de Sheila ou sous les miracles de Eric Clapton.
Alors, est-ce qu'il y a concurrence ou complicité entre, disons, ce qu'on appelle le pop ou le rock d'un côté et le jazz ou le blues?
Alors, je termine avec la musique de rhythm and blues, parce que celle-là a joué un rôle considérable. Et tous les musiciens d'avant-garde que vous avez cités, Archie Shepp, Sonny Rollins, Ornette Coleman, ont joué dans ces orchestres-là, parce que c'était là qu'on gagnait sa vie. C'était des orchestres impitoyables qui ne jouaient que pour la danse et pour du public noir. Et là, on ne plaisantait pas. C'était une école terrible. Lorsque le producteur d'un jeune baryton séduisant s'est dit, mais si je prends les 4 chansons qui ont le plus de succès actuellement et que je les fais chanter par mon zigoto, ça devient Elvis Presley, qui a une qualité personnelle très très forte. Sauf que cette musique était réservée au public noir. Il y avait des disques qui s'appelaient les race records, les disques de la race. Enfin, vous voyez, c'était quand même très très coupé.
Mais Elvis Presley est reconnu par le jazz, par la grande musique afro-américaine, il n'est pas reconnu comme la des leurs.
Il peut être reconnu comme un bon chanteur, voilà. Mais il peut être reconnu aussi comme un type qui a, game se joue beaucoup, qui a gagné des millions et des millions que les n'importe quel musicien de blues, même B.B. King ou comme ça, ne gagnera jamais. Donc c'est une concurrence qui est une concurrence de type commercial. Dans le film de Martin Scorsese est confié à Wim Wenders sur un chanteur magnifique de blues qui a eu des éclipses, qui est revenu, etc. Skip James. Mais on se serait fait couper en rondelles pour Skip James dans les années 60. Bon, puis il est revenu à la mode, etc. Et les Cream ou Eric Clapton ont gagné des sommes monstrueuses en chantant plutôt bien, d'ailleurs, hein, ces chansons. Mais lui, pour son enterrement, c'est les copains qui ont payé l'enterrement, sinon il se faisait pas enterrer.
Oui. Donc,
excusez-moi de faire du misérabilisme,
mais ça me homo economicus est oui. Aujourd'hui dominant, donc il faut parler argent. J'en conclus que si on veut faire fortune, il faut plutôt faire
être
du
blanc.
Rock que du jazz.
Ah bah oui, ça c'est oui. D'accord. Tout de suite, oui.
D'accord.
Oui. Ou du toutes les formes post-rock, oui. Mais ce qui est drôle, c'est que la forme, toutes les formes issues du jazz et du blues, notamment du blues, ont gagné planétairement. N'importe quelle chansonnette, je pourrais vous dire, voilà, c'est la grille du blues, la grille harmonie. Et en même temps, le blues a perdu planétairement. Alors, les Rolling Stones sont assez sympathiques dans la mesure où ils ont emprunté leur titre à une chanson de Muddy Waters, qui était un bluesman formidable, et ils le reconnaissent. Voilà. Et leur batteur, Charlie Watts, est un passionné de jazz qui continue d'enregistrer de la batterie de jazz avec l'orchestre symphonique de jazz de la radio danoise. Ça vient de sortir. Et il joue de la batterie comme moi je joue de la contrebasse.
C'est-à-dire très bien. Mais entre le jazz et le rock, il y a une communauté de langues tout de même. On est anglo-saxon. Je pense au rôle de l'Angleterre, là, qui a tout de même servi pour, je dirais, acclimater à la variété un certain héritage américain.
C'est ça qui est intéressant, c'est que l'Angleterre a anglicisé l'Amérique sous la forme de ce rock populaire et venu des banlieues de Liverpool ou d'où vous voulez. Oui, c'est vrai que c'est passé de cette façon-là. Donc, parenté, il y a certainement. Les musiciens de variété européenne savent très bien leur dette, s'ils ne sont pas nigauds. Mais le glissement ne s'est pas fait de façon fluide et tout à fait compréhensible. Enfin, c'est aussi un glissement de type commercial, de type opportuniste, la génération des années 60 a trouvé matière à faire de la musique avec un fond éblouissant.
Donc n'oublions pas ce que nous devons à l'Amérique, nous, Européens, ne tombons pas dans l'ingratitude et reconnaissons autant de mérite aux jazzmen qu'au GI de 1944, puisque nous avons entendu Francis Marmande payait ses dettes, en quelque sorte, à ce qu'on appelle nos amis américains, et nous aimons tous le faire lorsqu'il s'agit de musique. Merci, merci.
Merci, Régis.
Francis.
C'était France-États-Unis, un commerce équitable, par Régis Debray. Aujourd'hui, Francis Marmande. Prise de son, Philippe Mercher. Réalisation, Marie-Laure Ciboulet. I used to have some friends, but they wished that I were dead.